Bonjour à tous. Ce matin, le sujet, ça va être la prière et l'oxygène du chrétien. Prier, on peut dire, c'est aussi important que de respirer. Marie aussi, là, mais ça va être de respirer ce matin. Aussi important que de respirer. Voyez-vous ça? On va remettre ça dans les mains de Dieu. Merci, Seigneur, encore de nous avoir réunis. Tu éclaires, Seigneur, encore ce matin, par ton beau soleil, tout ce qui nous entoure. On a besoin de ton esprit, Seigneur, pour nous éclairer dans ta parole, pour qu'on puisse vraiment la saisir. Ce sujet, Seigneur, la prière qui est important. On te demande, Seigneur, de nous aider à que ta lumière brille dans nos cœurs, qu'on puisse aussi transmettre aux gens qui nous entourent ta gloire, Seigneur, ton amour. On t'en remercie, Seigneur. Dirige-moi dans ce message. En ton nom. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 17 et 18. Ça va être dans la Bible français courant que vous lisez. Vous avez le verset qui va apparaître au mur. Il t'en manque un grand. Le verset 18. Il va venir tantôt. Pas grave. Verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Ça, ça ne va pas dire de rester à genoux ou à journée longue. Hein. Ça, ça veut dire encore ouvrir notre cœur à Dieu. À journée longue, tout durant la journée, que notre cœur soit ouvert à Dieu. Remercier Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Donc, quelqu'un a dit, la prière, c'est l'oxygène du chrétien. Elle nous maintient en vie. La prière nous maintient en vie. Elle nous garde connectés avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est tellement important, la prière. L'être humain, vous savez, peut survivre sans nourriture plusieurs semaines. On peut vivre, plusieurs semaines paraîtrait sans nourriture. C'est sûr qu'on va bien filer. Sans eau, on peut vivre quelques jours. Mais sans oxygène, la personne s'effronte, elle va tomber dans quelques minutes. La prière, c'est comme ça, ça garde notre foi vivante. Celui qui cesse de prier, sa foi va diminuer, elle va finir par s'éteindre. C'est important, la prière, pour garder notre foi vivante. Vous amenez des petites comparaisons avec ce que fait l'oxygène et la prière. On va voir quatre choses que l'oxygène apporte, puis qu'est-ce que la prière apporte. L'oxygène alimente le feu. Un feu sans oxygène, il va s'éteindre. On n'a pas notre pompier matin qui est ici, là, mais on sait tout ça. Hein? C'est ça qu'on suit au moment des cours, enfin de même, ou qu'il y avait un instincteur, il s'agit de couper de l'oxygène et le feu va mourir. Le feu va s'éteindre. La prière alimente la foi. Une foi sans prière devient tiède, comme je l'ai dit, elle va finir par se refroidir. L'oxygène purifie le sang. Elle permet au corps d'éliminer toutes les toxines qu'on peut avoir en nous. La prière purifie le cœur. Elle chasse de nos cœurs l'amertume, la peur. On comprend, Dieu intervient. Peut-être que l'orgueil est là. On prie et Dieu intervient pour nous ôter ça dans nous. Il nous garde en bonne santé spirituelle. L'importance. L'oxygène donne la vie. Dès au début de la création, c'est écrit que Dieu souffla un souffle de vie dans l'homme. Hein? C'est important. La prière nous reste connectés à la vie. Quand je prie, ça me reconnecte à celui qui me fait vivre. Encore là, de l'importance est primordiale. Une dernière, l'oxygène nourrit chaque cellule de notre corps parce qu'elle circule partout en dedans de nous. La prière touche chaque aspect de notre vie. Le couple, on peut prier pour nos couples, on prie pour notre famille, pour le travail, les décisions qu'on a à prendre, les combats dans la vie, ça ne va pas bien, on prie que le Seigneur nous aide à travers ça. Encore là, un parallèle que fait l'oxygène et la prière pour nous aider. Donc, l'importance de prier pour être en bonne santé spirituelle. On va lire Luc, chapitre 18, le verset 2 à 4. On va voir un juge dans cette petite histoire-là. Au verset 2, il est dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. » Tout un juge, hein? Il ne respectait pas personne. Pas de respect pour personne. Mais vous savez, un juge demain. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Avec du trouble, elle voulait que le juge intervienne. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. » J'ai amené une petite photo qui pourrait représenter le juge et cette veuve-là. Aujourd'hui, avec Kyo, tu te donnes le verset, puis tu aurais-tu nous donner quelque chose qui ressemble à ça, qui t'amène quelque chose qui ressemble à ça. Fait que j'imagine que ça va être un petit peu de même. Donc, cette veuve demande justice. C'est normal, ça n'allait pas, quelqu'un qui ne marquerait pas, elle demande justice. Mais cette ville est dirigée par un juge, on l'a vu dans le verset, indigne. Hein? Un juge qui n'est pas attentif aux gens de sa juridiction. Y a-t-il l'air attentif à ce que tu demandes? Il a de l'air à l'écouter, hein? Attentivement, prêt à répondre. Ah, vous vous aidez, madame, vous vous aidez. Il n'a aucune compassion pour personne, donc il révèle de sa juridiction. Mais cette veuve est persévérante, une petite veuve persévère. Elle revient sans relâche, lui demander « Rends-moi justice ». Elle s'humilie, elle n'est pas arrogante, elle ne crie pas près du juge, elle s'humilie, elle lui demande « S'il te plaît, prends soin de ma cause ». Elle n'est pas arrogante. C'est de même qu'il faut se présenter aussi quand on demande quelque chose. Puis un jour, elle obtient ce qu'elle demandait. Bon, cela montre que prier une fois n'est pas suffisant. C'est Dieu qui nous dit. C'est Dieu qui nous dit. Ce n'est pas suffisant pour toujours. Dieu n'est pas comme ce juge et c'est ça qui est encourageant. Dieu ne se présente pas comme ça, là. Jésus est différent. Il est juste, il est compatissant. Son oreille est attentive à nos prières et il nous écoute. C'est écrit dans la parole de Dieu, 1 Jean 5, 14, entre autres. Si même un juge injuste finit par répondre, comme on voit là, quelqu'un qui est égoïste, qui n'est pas attentif, qui n'a pas d'égard pour personne, imaginez-vous que l'oreille attentive du Seigneur un jour, comment il va nous répondre. Hein? Le Seigneur va nous répondre. La persévérance sert à montrer notre foi et notre dépendance à Dieu. Ça sert aussi à ça. Comment on a confiance en Dieu? Comment on l'aime? Prier régulièrement transforme aussi notre cœur. Pas seulement les circonstances, un aspect de la prière. On apprend à faire confiance au Seigneur qui agit selon son temps qui est parfait. Dieu va répondre en son temps qui est parfait, selon son plan qui est parfait. Vous savez, Abraham a dû attendre 25 ans avant la naissance de son fils Isaac. Dieu lui a fait une promesse, mais il n'a pas répondu le lendemain matin ou au bout de 9 mois, ça c'est plus normal. Là. Et ça a pris 25 ans avant qu'il y ait une réponse. Par ce délai, il a appris beaucoup de choses. Que les capacités, la réponse de Dieu, on ne doit pas servir dans nos capacités humaines pour faire des réponses de Dieu, s'en remettre à Dieu. On sait, hein, il a été voir Agar, puis toute l'histoire, il y avait des choses à apprendre. Cela aussi a appris Abraham que rien n'est impossible à Dieu. Il était rendu pas mal heureux, hein, quand ils ont eu leur enfant. Et à cet âge-là, à 100 ans, c'est assez rare. Hein? C'est assez rare. Fait que Dieu voulait lui montrer, entre autres, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Une femme qui, elle, avait 10 ans de moins, je pense. Fait que Dieu voulait lui montrer aussi qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. L'attente de nos prières sert à transformer nos cœurs. Ça explique que des prières, des fois, sont sans réponse pour un certain temps. Dieu ne répond pas tout de suite. Ça explique pour ça. Soit le moment n'est pas venu. Le Seigneur dit, comme tantôt je parlais avec quelqu'un, elle disait des fois, Dieu ne répond pas tout de suite à nos prières parce que ce n'est pas le temps qu'on ait ça. Ce n'est pas le temps. Un petit gars qui demande une moto, peu importe, et a 4-5 ans, son père va dire, ce n'est pas le temps qu'on ait ça. Soit la demande n'est pas selon le plan de Dieu pour la personne ou pour l'humanité. Des fois, Dieu répond non, je ne peux pas te donner ça. Mais Dieu est parfait. L'attente aussi développe notre foi. Elle peut développer aussi notre patience. Elle nous amène à découvrir ce qui compte le plus pour nous autres. Qu'est-ce qui compte le plus quand je prie Dieu? Est-ce que c'est le don ou le donateur? Il faut se demander ça. Je prie pour avoir quelque chose. Si je ne l'ai pas, je suis. J'aime pas ça. Qu'est-ce qui compte le plus? Le Seigneur, il dit, parle d'attente. Toi, il nous laisse réfléchir. C'est quoi qui compte le plus pour toi, Jean-Marc? Que je réponde ou c'est moi qui compte le plus dans ton cœur? À qui tu es plus attaché? Es-tu plus attaché à ce que tu demandes ou à ce que tu es plus attaché à moi? Il faut réfléchir là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Dieu, son plan est parfait. Il sait pourquoi il ne répond pas tout de suite. Des fois, il veut nous parler à notre cœur aussi. Luc, chapitre 18, le verset 8. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Jésus, mais qui revient sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre? » Seigneur, j'y demande, mais je revienne. Est-ce que je vais trouver la foi sur terre? Le texte laisse entendre qu'à la fin des temps, la foi persévérante dans la prière sera devenue une denrée rare. Si c'est dans un contexte de prière qu'on parle. Seigneur, mais je revienne sur terre, est-ce qu'il y aura beaucoup qui vont prier avec foi encore? Ça laisse sous-entendre quelque chose. Hein? Ça laisse sous-entendre quelque chose. Et moi, j'aime bien ça, fouiller, puis qu'est-ce que le verset veut dire. Fait qu'à un moment donné, tu vois sur Internet, c'est pas la réponse d'Internet, mais est-ce qu'il y a des sondages pour comment les gens prient? Est-ce qu'il y a eu des sondages de fait là-dessus? Fait que je me suis informé, et puis il y a eu des sondages de fait entre les réunions de prière et les réunions de culte le dimanche. J'ai resté surpris. Mettons que pour vous donner des exemples, là, parce qu'il y a différents sondages. C'est un sondage qui a été fait à la grandeur de la planète sur différentes églises. Ça a bien tombé. Hein. C'était justement dans le sujet que je parlais. Sur une église, mettons qu'il y a 100 personnes, comment vous pensez qu'ils sont aux réunions de prière? Des fois, les réunions de prière, c'est le mercredi. Des fois, ça peut être le mardi. Des fois, ça peut être le jeudi. Peu importe. Hein. Combien vous pensez que les gens sont aux réunions de prière? 100 personnes à dimanche, une église de 100 personnes. C'est 15 ou 20. T'es pas loin. T'es pas loin. Mais t'es trop haut. T'es encore trop haut. Aux États-Unis, ça peut jouer là-dedans. Ils disaient les endroits dans le monde. Aux États-Unis, ça peut jouer là-dedans. C'est plus aux États-Unis, ils sont plus fidèles aux réunions de prière. En général, dans le monde, une église de 100 personnes le dimanche, c'est 10 % 10 % qui vont assister aux réunions de prière. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pris pas chez eux, là, mais ça donne une idée un peu. Ça donne une idée un peu. Et Dieu, il pose la question, mais je reviens à ce que je veux trouver la foi sur terre. Cette foi-là qui est dans la prière. Fait que ça nous donne une idée un peu, 10 %. pense que 90% de l'Église ne voit pas bien ben la prière importante. Ici, c'est une invitation à prier, et le Seigneur ne veut pas nous condamner non plus, mais c'est une invitation à prier. Ce passage est là pour nous réveiller intérieurement. Jésus ne décrit pas seulement l'avenir, il interpelle chacun personnellement. On n'a pas fait à garder à côté, dire « Ah, toi, tu ne viens pas, toi, tu ne viens pas. » Non, non, on nous regarde à nous autres-mêmes. Une chose, je dois appris, mais je vais assez m'en rappeler. Quand on pointe quelqu'un, là, vous remarquez qu'il y a d'autres doigts qui reviennent vers nous autres. Hein? Fait qu'on ne pointe pas personne. Dieu veut qu'on s'examine chacun. Donc, Jésus nous décrit pas seulement l'avenir, mais elle interpelle chacun personnellement. La pression du monde et le silence apparent de Dieu va-t-il éteindre la faveur de la prière, la ferveur de la prière chez le plus grand nombre? On peut se poser la question. Jésus demande si parmi ceux qui seront là, il va trouver cette foi audacieuse qui refuse d'abandonner de prier, malgré l'attente. La veuve revenait toujours pour demander à ce que c'est comme ça qu'on va agir. Jésus regarde si nous revenons régulièrement avec foi auprès du trône de la grâce. Vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a de la misère à prier. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. C'est dur de veiller une heure dans la prière. Même si les disciples, ouais. Très dur. Une heure, c'est très dur. C'est un combat. Puis l'ennemi sait. Quand on prie, la main de Dieu agit. Alors, il ne veut pas qu'on prie. Et on le voit, 90% des églises délaissent la prière. C'est quand même assez sérieux. C'est assez sérieux. L'ennemi sait qu'a compris, la main de Dieu agit. On est rien sans Dieu, nous autres. Là. C'est en priant que la main de Dieu agit. Et l'ennemi dit, non, il faut les empêcher de prier. Il faut les empêcher de prier. Il y a l'air à réussir pas pire, son affaire. Hein? Il y a l'air à réussir pas pire. Il ne faut pas le vanter. Hein? Donc, la foi, ce n'est pas de croire une foi. C'est revenir encore et encore, même si le silence paraît apparent. On va regarder un monsieur qui priait assez grure. On va mettre la photo numéro 3, Yolande. Non, putain. Des fois, une photo, ça nous aide à nous rappeler le message. Hein? C'était un homme qui habitait un petit village tranquille, on va dire Saint-Just-de-Bretagnère. On est juste à la bonne place. J'aime ça dire ça. Juste avant ça. Comme Paul y a dit, des saints justifiés. Hein? Il aime ça, Paul, en plus, il fait du vélo à Saint-Just parce qu'il sait que c'est juste à votre place. Donc, c'est un monsieur qui habitait un petit village, tranquille. Sa fille était très malade depuis longtemps. Chaque soir, il s'assoit à la même chaise près de la fenêtre et là, il prie tous les soirs. Au début, ses prières sont pleines de force. Crie à Dieu, hein? Seigneur, guéris-la, guéris ma fille, je t'en supplie. Les jours passent, puis les semaines, les mois, et rien ne change. Ses proches commencent à lui dire doucement, tu devrais accepter, hein? Que ta fille a vive demain. Tu devrais accepter. Dieu a sûrement un autre plan pour toi, pour elle. Mais lui, il revient encore et encore chaque soir à sa chaise et il prie. Parfois, il ne trouve même plus les mots pour prier. Alors, il dit simplement, Seigneur, viens à mon aide. Il est un peu découragé. Un soir, un voisin lui dit, un courage pas bien, pourquoi continues-tu? Tu ne vois que, tu ne vois pas que rien ne change. Ta fille, elle reste dans le même état. Pourquoi tu continues à prier? Cesse donc de prier. L'homme regarde par la fenêtre, puis répond, « Peut-être que rien ne change autour de moi, mais quelque chose reste vivant en moi. Si j'arrête de prier, je vais perdre l'espérance. Je vais perdre l'espérance. » C'est ça la foi dont parle Jésus dans Luc 18. Une foi qui ne tient pas seulement aux résultats visibles, mais qui reste attachée à Dieu. Elle garde l'espérance, même dans le silence. Le Seigneur ne répondra pas toujours favorablement dans le sens qu'on pense, nous autres, là. David avait fait un écart. Il avait été couché avec Bathsheba. On connaît l'histoire. Hein? Et elle avait, on dit, tombé enceinte. C'est pas un bon mot. On tombe pas encore. Elle est devenue enceinte. Et là, elle avait un bébé. Elle avait eu un bébé. Et l'enfant était très malade. Très malade. Il était sur le point de mourir. David, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il criait à l'Éternel. Il criait de tout son cœur. Il allait dans le temple, il criait. Il ne mangeait plus. Seigneur, je te prie pour mon enfant vivre. Je te prie pour mon enfant vivre. Vous lirez le texte, vous allez voir qu'il criait vraiment de tout son cœur. Et est-ce que l'enfant a vécu?
Non.
L'enfant est décédé. Oui, ok. Ouais. L'enfant est mort. Quelle était la réaction de David? Ses serviteurs avaient peur de dire. Hein? Il était là, il priait, il était pas près de l'enfant quand il priait. Il dit, hey, l'enfant est mort. Si on va lui dire ça, il est déjà à moitié mort lui-même, le premier mois au moins, là. Il ne mange plus, puis il s'afflige. Et si on va lui dire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, ils attendaient chuchoter, il dit, l'enfant est mort. Hein? Et on dit oui. Alors David se releva. S'est lavé, s'est habillé. Il dit, maintenant, je sais qu'un jour, on va aller vers lui. Mais lui, il ne reviendra pas avec moi. David, il a accepté la volonté de Dieu. Que ta volonté se fasse et non la mienne. On ne sait pas pourquoi. Cet enfant-là, peut-être qu'il a eu des problèmes toute sa vie. On ne sait pas pourquoi. Il s'agit d'en s'en remettre. Ce n'est pas facile. Là. Imaginez-vous que ce n'était pas facile pour David. Puis ce n'est pas facile. Aucun parent, quand un enfant meurt ou quelqu'un de près qu'on aime, il meurt. Mais il faut s'en remettre à la volonté de Dieu. David, c'est ça qu'il a fait, il a continué sa vie. Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse aussi. Marc 10, 47 et 48. On ne peut pas toucher tous les aspects de la prière dans un message. Tellement de belles choses à découvrir sur la prière. C'est une chose tellement importante. Il est écrit, « Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. » Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais criaient de plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Ça, il s'adressait à Jésus. Encore là, j'ai une petite photo qui peut représenter Bartimée. Regarde, on va lui mettre ça à l'écran. J'imagine qu'il devait crier de tout son cœur. Il devait crier de tout son cœur. Ici, nous avons l'histoire de Bartimée. Il était aveugle. Sa vie était faite d'attente et de dépendance. Lui attendait ce que le monde lui donnait. Il vivait juste de ça. Il pouvait faire autrement que ça. Il était aveugle, il ne pouvait pas gagner sa vie dans cette. Il dépendait des gens. Un jour, il entendit que Jésus passe sur le même chemin où il était assis pour mendier. Wow! Alors, il va tout faire pour se faire entendre par Jésus. Mais ce n'était pas facile pour lui. Il avait au moins trois obstacles. On va regarder ça. Premier obstacle, sa condition. Il était aveugle, pauvre et marginalisé. Autrement dit, il n'était pas vu comme quelqu'un d'essentiel dans le secteur. Il ne serait pas là, puis on s'en passerait. Hein? Toute sa vie, lui dit, « qui n'a pas de place ici. Les gens, ils disaient de se taire, de s'éloigner. Tout le monde lui montrait qu'il n'avait pas sa place là. Il n'avait pas sa place, il dérangeait le monde. Tu nous déranges. Tu nous déranges. Comment qu'on peut se sentir? Comment qu'on peut se sentir? Hein, on lit ça de même des fois qu'on passe. Mais mets-nous-toi à la place de Bartimée. Comment qu'il pouvait se sentir? Pauvre, à rien, pour l'équipement. Puis le monde disait, hein, tu nous déranges. C'est doit être terrible, mais le matin, là, il se lève en cours de journée. Hein? Aujourd'hui, on voit que les gens, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? On demande l'aide à mourir. Mais lui, c'est pas ça qu'il fait, là. Regardez ce qu'il fait. Il voulait être attendu. Donc, il lève la voix. Le monde dit, tu nous déranges. Mais oui, il lève la voix. Fils de David, aie pitié de moi. Il répétait avec insistance les mêmes mots, plus vite et plus souvent. Hein? Pourquoi insiste-t-il autant? Pourquoi penser qu'il prie avec autant d'ardeur? Parce que pour lui, c'était sa vie, son espoir. C'est son cœur qui parlait. Dieu attendait un gars qui criait avec son cœur. C'était crucial pour lui. Dieu entend nos prières. Et vous, si ça vient du cœur, ben non, c'est juste ça. Des fois, ça peut être des prières parce qu'on veut être gâté. Hein. La prière persévérante commence souvent dans la faiblesse, dans la détresse, je dirais. Dans le psaume 107, il y a 4 exemples. C'est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Des fois, c'est quand on est rendu dans la détresse que le cœur crie pour vrai. Que tu es rendu au bout du rouleau, t'en peux plus. Là, tu cries. Là, Dieu voit, il voit ton cri. C'est souvent que l'homme n'a plus d'autre solution qu'il va prier avec persévérance. C'est là que devient la véritable rencontre avec Dieu. Avant, des fois, on peut prier, mais un Dieu lointain. Quand tu es rendu, tu cries dans la détresse. Là, tu sais que Dieu est à côté de toi et t'entends. Bartimée, c'était ça. Deuxième obstacle, la foule. La foule qui veut le faire taire. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, beaucoup. La foule ne l'aide pas, elle l'étouffe. Elle l'étouffe. Aujourd'hui encore, il y a des obstacles qui font taire les prières, là où les prières. On l'a vu tantôt dans le sondage. Hein? La fatigue. Oh, fatigué. Je prierai demain. Là, demain, tu y arrives. Hein? Tu es encore plus fatigué. Je prierai le lendemain. Et c'est ça qui se produit. Oh, je suis fatigué. Je n'irai pas aux réunions. Je suis fatigué. Fatigué. Le diable aime ça. Hein? En plus, j'ai toujours été fatigué. La voix intérieure qui dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prier. Quand tu vois, ça ne change pas. On a vu des exemples tantôt. Hein? Ça ne change pas. Là, ceux qui écoutent ça, si tu écoutes ça, ça ne sert à rien. Beaucoup ont écouté ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cessé de prier. Le diable, c'est ça qu'ils voulaient. Mais Bartimée fait quelque chose d'extraordinaire. Il criait plus fort. Il ne baissait pas le volume. Il augmentait le volume. Les décibels étaient au bout. Hein? On avait une aiguille. Au bout. C'est la marque d'un cœur qui refuse d'abandonner. Je n'abandonnerai pas, je vais crier à l'Éternel. La petite veuve, elle n'a pas abandonné, hein? Elle criait. C'est la marque d'un cœur, je n'abandonnerai pas. Seigneur, je veux une réponse. Donne-moi une réponse. Bartimée fait quelque chose d'extraordinaire et dont on voit qu'il crie plus fort. Psaume 5, verset 4. Psaume 5, verset 4, dans la Sommeur. Encore un exemple. Il est écrit, Éternel, depuis l'aube, ça c'est le bonheur, hein? Ma voix se fait entendre. Car dès le point du jour, je me présente devant toi et puis j'attends. J'attends. Dès le bonheur, soleil n'est pas encore levé. Et je crie à toi, Seigneur, et j'attends. Troisième obstacle pour Bartimée, le temps. Jésus marche. Jésus avance. Il ne s'arrête pas immédiatement. Bartimée aurait pu penser, il ne m'a pas attendu. C'est incroyable. Hein? Ou bien, il ne veut pas m'entendre. Mais Dieu n'est pas comme ça. La persévérance, ce n'est pas une vaine répétition, mais une démonstration de foi et de confiance absolue dans la promesse de Dieu. C'est de l'avoir, je dirais, de la ténacité. Persévérer. Anne, la mère de Samuel, a prié longtemps pour avoir un fils et elle fut exaucée. Elle priait, puis moi, on en faisait quasiment une dépression. Elle voulait vraiment en avoir un. Mais le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est un refus. En son temps, Dieu a répondu. Élie a demandé plusieurs reprises l'appui avant que le ciel s'ouvre. Je pense que ça a duré 3 ans et demi. Je pense que la sécheresse. Fait qu'il a prié, pour avoir de l'appui. En son temps, Dieu a répondu. Il fallait qu'Achab et tout le peuple qui était là, il fallait qu'ils comprennent. Il y avait une leçon à donner au peuple. Et c'est comme ça, il fallait qu'ils attendent Dieu. D'emmener exemple, Moïse, il gardait les mains levées. Vous savez, quand il y avait Israël qui combattait contre l'ennemi, là, c'était tout, Moïse était situé en haut, il voyait ça. Quand Moïse élevait les mains, priait à Dieu, le peuple d'Israël avait le dessus sur les ennemis. Quand Moïse baissait les mains, qu'est-ce qui se produisait? C'était les ennemis qui commençaient à avoir le dessus. Alors Moïse relevait les mains. Mais maintenant, il était fatigué. Il criait, il baissait les mains. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a deux de ses amis, hein? Deux personnes qui sont venues, puis ils ont aidé à lever et garder les mains en l'air. Continuez à prier, on voit la victoire. Et c'est comme ça. Continuons à prier. Il y a des combats qui se font dans la vie, mais il faut continuer à prier. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Vous venez en sortir quelques-uns, ça nous fait tout du bien. Garde les mains levées, crie à Dieu. Et Dieu est en train de combattre pour nous autres dans ce temps-là. Marc 10, 49. Il est écrit, Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le. C'est Jésus qui nous appelle. Je veux ça en bon temps. Ça y a dit, appelez-le. C'est qui va le répondre? Hey, juste, hein? Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Non, appelez-le. Il appela l'aveugle. Et lui, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. La foule peut ignorer ceux qui vivent dans la détresse. Mais Jésus, lui, s'arrête pour entendre le cri de celui qui persiste dans la foi. Jésus nous regarde avec compassion. Il ne se détourne pas le regard de nous autres. La prière persévérante retient l'attention du ciel. Jésus ne dit pas comme la foule, « Faites-le taire! » Ben non, hein? Mais Jésus, lui, voulait l'entendre. Mais il lui pose une question. Vous remarquez? Avant de répondre à sa prière, il lui pose une question. Question surprenante un peu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Pensez-vous que Jésus savait? Ben oui, mais il voulait l'entendre. Bartimée ne voulait pas d'argent, mais l'a vu. Il précise sa prière à Jésus. Il lui a dit qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait retrouver la vue. Alors, Jésus, voyant sa foi, on prie avec foi, il le guérit. D'aveugle qu'il était, il est devenu voyant. Maintenant, il voyait. Il y a une chose qu'on lit, puis on remarque des petits détails dans cette histoire-là. C'est au verset 53. Qu'est-ce qu'il a fait après ça, Bartimée? Après avoir vu clair, qu'est-ce qu'il a fait? Il suivait Jésus. Il voulait voir clair, pas parce qu'il était égoïste, mais il voulait aussi suivre Jésus. On voit sa reconnaissance. Après avoir vu, Jésus, à un moment donné, il avait guéri. Combien de lépreux? 10, hein? Et sur les 10 lépreux qu'il avait guéris, combien sont revenus le remercier? 10%. Hey, vous pensez vite, hein? Vous me dites heureux. 10%. Peut-être que c'est-tu, peut-être, pour ça, des fois, le Seigneur tarde à répondre à nos prières. Il y a juste 10% qui ont de la reconnaissance. Peut-être. En tout cas, le Seigneur le mentionne, hein? Combien qui sont venus remercier Dieu? 1/10. 1/10. C'est pas pour nous lancer des pierres que le Seigneur dit ça. Mais c'est pour nous éveiller, plus qu'on prie, puis plus Dieu veut nous bénir. On a chanté tantôt, hein? Toutes ces bénédictions sont à nous autres. Mais si j'ai un gros coffre de toutes sortes de belles affaires, le Seigneur dit, tu peux prendre ça. Après, le Seigneur me dit de prendre ça, là, je peux prendre dedans. Mais si je ne prie pas le Seigneur, puis si je ne demande pas que je puisse puiser dans ses trésors, ça serait là pour moi. Mais qu'on arrive au ciel, quelqu'un dit, peut-être qu'on voit des gros coffres, bien pleins. On va dire, Seigneur, c'était quoi ça? C'était tout pour toi, mon enfant, mais tu ne l'as pas pris. Tu ne l'as pas pris que tu étais sur terre. Parce que peux-tu qu'on passe à côté de beaucoup de bénédictions? On passe beaucoup à côté. On pense qu'il y a des choses terrestres, que c'est ça qui est avantageux pour nous autres. On oublie les bénédictions spirituelles. Hein? Dernier verset, Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose, hein? Par des prières, des supplications et avec action de grâce. La prière, comme on le dit, c'est le sujet, la prière est l'oxygène du chrétien. Donc, c'est vital pour nous autres. Tout comme on ne peut pas stocker d'oxygène en nous en prenant une bonne bouffée, hein? On va dire un matin, à Melvin, là, je vais prendre une bonne bouffée d'air et je vais être correct pour la journée. Ça ne marche pas de même, ça. Il faut respirer sans cesse. On a vu tantôt prier sans cesse. La prière est plus efficace lorsqu'elle est régulière, comme la respiration. Une prière constante nous garde vivants. Rappelons-nous, on a vu l'oxygène tantôt, il faut prier sans cesse. On doit respirer sans cesse. Ça ne veut pas dire d'être toujours à genoux, mais d'être en relation avec Dieu. Tout ce qui nous arrive, Seigneur, merci pour ça. Seigneur, peux-tu prendre soin de cette situation-là? On est en ton camion, tu t'en vas sur la route, hein, aux États-Unis, n'importe où. On prie, Seigneur. On est en relation avec lui. La prière nous permet d'expulser le gaz carbonique dans le sens de l'inquiétude. On a de l'angoisse dans le cœur. On prie, Seigneur. Et Seigneur, viens, nous aide. Il nous aide dans cette situation-là. Ça ne veut pas dire que ça tout va être réparé dans un instant, mais il va nous aider. Tout ce qui n'est pas bon pour notre vie spirituelle, Seigneur, va nous aider à nous débarrasser de ça. Puis nous allons respirer la paix et la grâce de Dieu. Donc la prière, c'est la confiance en Dieu qui redonne de l'énergie à nos membres pour avancer. Donc, comme je vous ai dit, ça ne signifie pas que tous les problèmes vont disparaître d'un coup sec, mais que nous allons avoir d'un nouveau les idées plus claires pour avancer. Des fois, c'est ça la réponse à nos prières. Dieu ne nous sort pas du problème, mais il nous donne la direction. Nos idées deviennent plus claires pour avancer à travers l'épreuve qu'on vit là. Ça vient illuminer nos cœurs, nos pensées. Maintenant, oh! Ça, elle n'avait pas vu ça de même. Et Dieu dit, prends-toi de cette façon-là et ça va bien aller. Ça nous donne la force pour affronter les difficultés de la journée, de la vie. Parce que ce n'est pas toujours des réponses qui vont arriver comme ça dans le sens. Mais Dieu va nous éclairer comment faire pour prendre la bonne direction. Il y avait une petite image aussi là-dessus, c'est la dernière. Une madame qui priait. Je trouvais ça beau. Madame, le Seigneur, il n'a pas répondu, mais il a donné la direction. Maintenant, je vois. Avant, je ne voyais pas. Maintenant, je vois quelle direction prendre. Merci, Seigneur. c'est suffisant. C'est suffisant. Je t'en remercie. Hein? Donc, quand le stress nous serre la poitrine, ça vous arrive-tu? Quand le stress nous serre la poitrine, ou que l'air manque, tu dis, hey, j'étouffe. Dans des situations difficiles, ça arrive. Ça arrive. Murmurons. Seigneur, prends ce poids qui m'étouffe. Alors, son souffle divin va nous aider à mieux respirer. Et des fois, c'est ça qu'on a besoin. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.